Bonjour, merci d'être avec nous. On est content. On va voyager aujourd'hui. On a Vivien qui est encore là. Tiens, bonjour.
Bah, c'est toujours moi.
Non, parce qu'on a Rémi aussi. Bonjour Rémi.
Et bonjour à vous.
Comment ça va?
Ça va bien, froidement. Vivement l'été, mais ça
va. Comment vont les pieds?
Oh non, les pieds, ça va.
Ça va?
En ce moment, ça va. Bah, on est au repos forcé, donc on n'a pas le droit de marcher. Donc.
Parce qu'il faut dire à nos auditeurs, Rémi a parcouru 3000 km à pied. En Nouvelle-Zélande, il en a fait un bouquin qui s'appelle 3000 km à pied, journal de bord, préparation. Rémi Geoffroy, c'est paru chez Jacques Flamand, Alternative éditoriale. 3000 km à pied, que en Nouvelle-Zélande?
3000 km à pied en Nouvelle-Zélande et d'autres milliers de kilomètres à pied aux États-Unis aussi.
D'accord.
Donc ça, en tout, ça fait 8000, plus de 8000 km cumulés.
C'est pour ça que je demande, comment vont les pieds?
Ça va,
ça marche.
Ça fait deux ans que je peux marcher.
Pourquoi finalement on peut marcher, ça ne s'use pas ces trucs? C'est pas mal. Alors d'où est venue cette idée de partir en Nouvelle-Zélande, marcher 3000 km?
Alors sur la Nouvelle-Zélande, on va dire que j'ai eu l'opportunité de partir juste avant mes 31 ans. Puis il y a un PVT qui existe en Nouvelle-Zélande, c'est le permis vacances-travail. C'est pour les jeunes qui veulent voyager et travailler en Nouvelle-Zélande. Et il faut faire la demande avant ses 31 ans. Et donc, je l'ai fait la veille ou la semaine, on va dire la semaine avant mes 31 ans. Je me suis dit, presque sur un coup de tête, j'ai dit, bon allez, je tente d'obtenir le visa pour partir en Nouvelle-Zélande. Et ça s'est fait. Et je connaissais l'existence du chemin. Donc après, ben, voilà, c'était naturel. C'est, si je partais en Nouvelle-Zélande, j'allais traverser le pays à pied.
D'accord. Comment s'appelle le dispositif?
Le PVT, Permis Vacances-Travail.
Vacances-Travail. Et le travail, c'était quoi?
Moi, j'ai pas travaillé.
D'accord. C'est bien ce qui me semblait.
On peut travailler ou juste voyager un an, ça dépend. Voilà. Nos finances, ça dépend.
Il a pas eu le temps de travailler.
Ben oui.
J'en avais pas envie, surtout. En fait.
On prend une claque quand on fait ça?
Oui. C'est...
Parce que ça fait rêver tout le monde, mais 3000 km à pied, c'est pas de la tarte.
C'est hors norme, on va dire. Voilà, c'est hors norme de ce qu'on connaît, on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que ça fait une grosse coupure et ça fait du bien aussi.
Dis-moi, combien de paires de chaussures entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis?
Entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, on doit être à 4 en Nouvelle-Zélande et 4 aux États-Unis aussi. Ouais, je dois être sur 8-10 paires de chaussures.
Ah oui, il y a des photos dans le bouquin où on voit des chaussures qui sont bien éclatées.
Ah bah, c'est obligé, on est obligé. Ouais, c'est...
Alors le livre, il y a un autre titre, c'est Te Araroa. Ça veut dire quelque chose, j'imagine.
Oui, alors Te Araroa, c'est le nom du chemin en fait, tout simplement. Ça veut dire le long chemin en français. C'est The Long Pathway en anglais, le long chemin en français. C'est le nom du chemin officiel, c'est une espèce de GR en fait, si vous voulez. C'est comme nos chemins de grande randonnée français. Et à l'échelle néo-zélandaise qui traverse tout le pays, il s'appelle le Te Araroa.
D'accord. Ah oui, c'est un seul, comme le maori. Comme le grand GR, nous qui traversons les Alpes et tout
comme
ça.
Comme le GR20, le plus connu, ou d'autres GR.
D'accord. On dit que souvent de marcher comme ça, ça forme une certaine forme de spiritualité. Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu appelé ou...
Non, pas vraiment. C'est que la toute première fois que je suis parti aux États-Unis, donc il y a 4 ans maintenant, j'y allais un peu pour ça aussi, pour on va dire, pas me retrouver avec moi-même. Enfin, c'est un peu ça en fait. On pense aussi quand même, voilà, se chercher, se retrouver avec soi-même. Après, on se rend compte qu'en fait, le chemin est assez technique souvent. On n'a pas trop le temps en fait de penser. Enfin, on pense beaucoup, mais on n'a pas le temps, on va dire, de penser spiritualisme, philosophie, tout ça. Donc, moi, non, sur ce côté-là, ça ne m'a pas forcément apporté de choses. Je n'y allais pas pour ça non plus après. Donc, bon, c'est pas. On pense beaucoup, on va dire, mais voilà. Moi,
c'est ce que j'allais dire quand on marche.
On n'a que ça à faire presque de la journée. Donc, mais après, non, pas forcément sur le côté spiritualité et philosophie. Non, moi, pas trop. Mais...
Et pour avoir fait aussi la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui t'a le plus plu là-bas?
L'île du Sud en général, c'est un pays qui est vraiment différent. L'île Nord et l'île Sud n'ont absolument rien à voir. Et l'île Sud, ouais, c'est magnifique, c'est le Seigneur des Anneaux devant nos yeux, quoi, en permanence. Tu l'as fait aussi,
oui, j'imagine. Fait,
que, voilà, c'est la réponse est souvent la même pour les personnes. C'est, qu'est-ce que vous avez préféré? C'est l'île Sud. Il n'y a pas de doute sur ça.
Les paysages, ça cloue? Ou alors finalement on est déçu parce que c'est tout plat ou tout vert?
Non, déçu, on va dire déçu sur l'île Nord. Pas forcément déçu, mais je m'attendais pas forcément à ça sur l'île Nord. C'est vrai que déjà c'est un pays qui est assez étroit, on va dire, enfin, qui est pas très très grand. Donc du coup il y a pas beaucoup de chemin, pas beaucoup de routes. Et sur l'île du Nord en fait on est vite, on se sent un peu oppressé en fait. Il y a beaucoup de routes, beaucoup de pâturages en fait. Et donc des pâturages, ben on en a chez nous aussi. Donc voir un pâturage, voir des vaches, des moutons, ici ou en Nouvelle-Zélande, bon au final marcher à travers des prés au milieu des bousses de vaches, c'est pas forcément le plus excitant.
C'est pour ça que la Nouvelle-Zélande est connue pour ses énormes troupeaux.
Il y en a
dizaines de milliers de bovins.
Oui, c'est surtout sur l'île Nord. Et l'île Sud, voilà, c'est beaucoup beaucoup plus sauvage. C'est là qu'on prend vraiment qu'on prend une claque. Quoi. Sur l'île sud, c'est pour, des paysages. Voilà, qu'on...
Pour l'avoir fait aussi, c'est vrai que c'est un effet waouh. C'est qu'en fait, quand on se balade vraiment dans les sentiers, tout ça, il y a toujours un moment où on fait toujours. Ouais, c'est l'effet waouh. Toujours, on dit waouh, c'est trop beau, waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Et sur l'île du Nord, notamment, même si c'est la partie la plus, on va dire, cosmopolite, entre guillemets, mais c'est là où il y a tous les lieux de tournage quasiment du Seigneur des Anneaux. Donc il y a le Hobbit Town avec le vrai village de Hobbit.
Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Oui, qui est présent. Et c'est à faire au moins une fois quand on est là-bas, il faut le faire absolument. Et il y a le décor naturel du Mordor, avec une grande balade qui fracasse bien les pieds aussi. Ouais.
Vous avez rencontré Bilbo ou pas?
Non, j'ai pas eu, le chemin ne passait pas malheureusement par Hobbit Town, donc j'ai pas eu la chance de le visiter moi. Mais la couverture du livre d'ailleurs, c'est la montagne du destin en fait, là où a été tourné... Le Seigneur des Anneaux, du coup, c'est la montagne du destin, le Mont Doom dans Le Seigneur des Anneaux. Du coup, c'est la montagne qui est sur la couverture du livre.
C'est vrai que le cinéma adore ces décors parce qu'ils sont assez fabuleux. Il n'y a pas trop de lignes électriques ni des choses comme ça.
Non.
C'est vrai que c'est un problème aussi au cinéma. Ouais. Surtout quand on fait un truc comme Le Seigneur des Anneaux, il vaut mieux pas qu'il y ait des câbles ou des choses qui traversent. Alors, ça vous a pris un jour. Vous avez dit, tiens, je vais aller profiter du vacances, passeport travail vacances.
C'est ça.
je vais aller en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pourquoi? Parce que justement, à cause des films, à cause des souvenirs.
Pour
d'enfance.
Être honnête, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux juste avant de partir, en fait.
D'accord.
J'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Je le regrette énormément parce que j'ai adoré quand je l'ai vu, forcément. Donc non, beaucoup de personnes vont en Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont fans du Seigneur des Anneaux. Ben moi non, c'était pas pour ça, forcément. C'est que je connaissais l'existence de ce chemin, du coup. J'ai attrapé le virus, voilà, la randonnée là, en traversant les États-Unis il y a 4 ans, et je connaissais ce chemin. Et je m'étais dit, voilà, un jour, j'aimerais bien le faire. Et voilà, j'ai eu cette opportunité, on va dire...
De le faire.
Hein. J'ai quitté mon boulot aussi, voilà. J'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle, du coup, là où je bossais. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de partir. J'avais ce créneau voilà, dans ma vie. Je me suis dit, ben, y a que là que je pourrais le faire, parce que de toute façon, le visa, après, j'avais plus le choix...
Le
faire, donc le visa. Après, sinon, on peut aller en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois maximum, mais le chemin, 3 mois, c'était trop court, donc il me fallait un visa particulier.
Alors, la densité est très petite là-bas, très, très basse. Il y a très peu d'habitants au kilomètre
carré. Oui, il y a 3 millions, je crois, d'habitants en Nouvelle-Zélande. Donc, ouais. On voit sur l'île, mais en plus, 3 millions, il y en a plus de la moitié, bien plus de la moitié sur l'île du Nord, en fait. Donc, l'île du Sud, après, c'est très sauvage, en fait. On voit, il y a très peu de grandes villes sur l'île du Sud. Et... très peu de monde et des grands espaces sauvages. Donc
alors, vous êtes parti avec une tente ou comment vous logiez chez l'habitant? Comment ça se passait?
Chez l'habitant, non, j'ai très peu logé chez l'habitant. Il y a une ou deux personnes qui nous ont accueillis. Sinon, non, ça a été beaucoup en tente, donc beaucoup de bivouac en tente. Et un système qui est génial en Nouvelle-Zélande, c'est des huts, ils appellent ça des huts, H-U-T. C'est des cabanes, des refuges qui sont au milieu du chemin, en fait. Surtout sur l'île sud, il y en a beaucoup, beaucoup sur l'île sud. C'est nos refuges, en fait, comme nos refuges français, quoi.
Après, il faut savoir que le tourisme en Nouvelle-Zélande est orienté sur le trek, sur les balades, les randos et sur les camping-cars. En fait, il y a beaucoup de de camping-cars. Tout est pensé et étudié pour que les gens qui vont traverser la Nouvelle-Zélande puissent le faire à pied aisément, en sécurité, ou alors en camping-car, ce qui n'est pas du tout en France.
Ou
en van, il y a de vannes aménagées. Il y a des aires de repos aménagées où on peut vider ses eaux usées, où on peut se reposer, avoir de l'électricité, ou alors juste des aires en pleine nature, mais qui sont sécurisées, où on ne risque pas de tomber sur des animaux sauvages ou autres, ou en tout cas moins, voilà, et qui sont aménagées pour ça.
D'accord. Rémi, c'est quand même un malade un peu particulier parce que je lis là un extrait. Après 2 jours de repos, l'envie de marcher est indéniable. Le mec, il ne peut pas s'arrêter, quoi. Mais les jambes, elles ne sont pas d'accord.
C'est ce que je dis aussi dans le livre. En fait, c'est vraiment une drogue.
C'est un extrait du livre que je viens de lire. Là.
Voilà, c'est une addiction. Donc,
on a envie de marcher, de marcher.
Ah, c'est ça. C'est après quelques jours, en fait, ça nous prend. Et quand on s'arrête, on a besoin de repos. Donc, c'est paradoxal parce qu'on a besoin de repos aussi. Le corps a besoin de repos. Mais après un ou deux jours de repos, en fait, on a envie de repartir. Parce que des jours de repos, c'est vite, on ne fait rien. En fait, un jour de repos, on s'arrête, on ne fait rien. Alors qu'on a l'habitude de marcher, en fait, de faire que marcher.
C'est pas mal. C'est une drogue qui n'est pas très chère, finalement.
Non, mais c'est ça. Ça fait, ça fait du mal aux genoux. C'est le seul problème.
Mal aux jambes.
Pour le corps, voilà, c'est les genoux surtout.
Les chevilles aussi, je crois, si j'ai bien compris.
Les chevilles, les genoux. Voilà, ouais.
Après, pour l'avoir suivi, parce qu'on le suivait sur Instagram, pas au jour le jour, mais en tout cas, dès qu'il postait quelque chose, il a eu un souci assez important au genou. On s'inquiète quand même, parce que même si on sait qu'il a la condition, qu'il s'est entraîné, qu'il n'est pas non plus allé comme ça, sans entraînement, Il y a eu un moment où quand même tu es resté un petit moment au repos forcé. Quoi.
Deux semaines, un peu plus de deux semaines au repos forcé. Voilà, au tout début en plus, c'était après 9 jours de marche. Du coup, j'ai un gros problème au genou. En fait, j'arrivais plus à marcher, plus à plier le genou, plus à marcher du tout. C'était le tout début de l'aventure en plus. Donc j'avais sacrifié, ben voilà, j'avais quand même quitté mon boulot, mon appartement, j'avais tout quitté en France pour partir là-bas. Et après 9 jours, je me retrouve à l'arrêt, à pas savoir si j'allais pouvoir finir. Et donc ça a été très très dur à vivre. Et puis finalement, ben voilà, du repos, quelques bières et puis.
Quelques bières.
C'était reparti.
Avec modération, j'espère.
Avec modération, toujours. Ouais.
Non, mais avec un habitant tous les 3000 km, on trouve pas d'hôpital là-bas, non ? Enfin, quand on est paumé, si vous arrivez à un truc là.
Sur l'île Nord, c'est vrai qu'il y avait quand même des villes tous les jours. Il y avait du réseau. Sur l'île du Nord, on va dire, il y avait quand même du réseau. Il y avait des villes assez régulièrement. Tous les deux jours, même tous les jours, des fois. C'était même un peu trop. Enfin, voilà, c'est paradoxal, mais bon, il n'y avait pas ce côté sauvage. J'allais vraiment pour ça aussi, en fait, pour me retrouver seul un peu au milieu de.
Face à ses propres
limites. Voilà, c'est ça. Et sur l'île Nord, je ne l'ai pas vraiment ressenti parce qu'on était tout le temps, il y avait tout le temps des villes, quoi. Donc c'est bien pour le côté sécuritaire, c'est sûr, s'il nous arrive quelque chose. Là, voilà, j'ai été arrêté, j'ai pu aller à l'hôpital, je suis resté dans une auberge de jeunesse. C'était. Voilà, j'ai pas eu de soucis, quoi. Mais...
Alors, la Nouvelle-Zélande est connue aussi pour sa faune, avec des animaux emblématiques. Vous avez pu en voir ? Ou alors ils s'en vont quand vous arrivez à pied, et pourtant à pied ça va.
Voilà, l'animal le plus emblématique, c'est évidemment le kiwi, du coup, qui donne son nom.
À part le mouton, bien sûr.
Aux habitants, oui, le mouton. Bon, le mouton, j'en ai vu, oui, j'en ai vu. C'est l'animal que j'ai le plus vu.
Mais oui, le kiwi, qui est donc l'oiseau.
Voilà, l'oiseau qui ne s'est pas volé, l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Non, mais le kiwi, non, on ne les voit pas. J'en ai vu, moi, mais pas sur le chemin, du coup. Sur une autre île ensuite, du coup, il y a une toute petite île au sud de la Nouvelle-Zélande encore, où j'ai eu la chance d'aller après. Mon aventure sur le Terre Aroa. Et là, j'ai pu en voir. Sinon, après, on voit beaucoup d'oiseaux endémiques à la Nouvelle-Zélande. Il y a le weka, notamment. C'est un oiseau chapardeur.
D'accord. Une sorte de pie.
Ouais, voilà, un plus gros. C'est assez gros.
C'est assez gros, ouais.
Et ils volent un peu tout, en fait. Il ne faut pas laisser, les chaussures de randonnée, pas laisser les bâtons.
Comme ils n'ont pas trop de prédateurs naturels, ils n'ont pas trop peur.
Et
en fait.
C'est ça l'avantage de la Nouvelle-Zélande. C'est aussi pourquoi je suis parti en Nouvelle-Zélande et pas en Australie. On m'a souvent posé la question pourquoi. Et c'est tout bête, mais c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a absolument aucun prédateur, aucun animal qui ne veut vous tuer, contrairement à l'Australie.
Oui.
Donc il n'y a pas de scorpion, pas de serpent. Il n'y a pas du tout de serpent. Nouvelle-Zélande, il y a quelques espèces d'araignées, mais moi j'en ai pas vu, donc très très rare. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de puma, comme aux États-Unis.
Mais ce que je voulais dire, c'est que les animaux eux-mêmes n'ont pas trop peur parce qu'ils n'ont pas trop de prédateurs.
Non, il n'y a pas du tout de prédateurs.
Ouais, donc ils sont tranquilles. Quoi.
Ah oui, c'est.
Et un ornithorynque, vous n'avez pas vu ?
Non, je ne sais même pas s'il y en a en Nouvelle-Zélande. Peut-être en Australie, je crois que c'est l'Australie vraiment. Il n'y a qu'en Australie qui a des trucs bizarres comme
c'est
ça.
C'est un mot très très bizarre quand même. Si c'était à refaire.
Ah bah oui, je repartirais demain. Ah bah là, j'attends que ça. Peut-être pas forcément en Nouvelle-Zélande, voilà, je l'ai fait. Puis c'est un long voyage aussi, c'est très très loin.
Vous avez l'air d'avoir souffert quand même un peu, hein ?
Oui, oui, ça a été très très dur. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais ça a été très très dur physiquement, on va dire, plus physiquement. C'était très dur. Les montées sont abruptes, il y a beaucoup de boue, beaucoup de passages sur la route aussi. C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais beaucoup de kilomètres sur le goudron, donc c'est vrai que quand on aime bien marcher, randonner, c'est pas forcément sur le goudron qu'on préfère, mais...
Ah oui, à un moment, on voit les photos avec les pieds couverts de boue. Là.
Ouais, oui, la boue, c'est ouais, c'est.
Et pour marcher, ça doit être dur. Il faut
on
sortir,
fait avec après.
Il faut forcer là-dedans.
C'est pour marcher, c'est aussi au niveau confort, on va dire. Confort, hygiène, c'est vrai que.
Faut se dire qu'on ne
se douche pas tous les soirs. Pas deux fois, une fois par semaine. Donc quand on a de la boue, voilà, quand on a de la boue le soir au campement, ça ne fait pas très plaisir de se coucher avec de la boue. Mais
certains
bon.
Animaux s'en servent pour leur hygiène. Hein.
Oui, il y en a qui s'en servent
pour enlever les parasites.
Sur les coups de soleil, on peut s'en mettre sur soi pour éviter les coups de soleil aussi, des choses comme ça.
Combien de kilomètres par jour en moyenne ? 35, 40
On va dire 30 en moyenne, 30 en comptant les jours de repos et tout, c'est ça. Mais...
Ça veut dire quoi ? On se lève à 8h du mat, on marche jusqu'à 20h ?
Même avant, du coup, même avant. Mais souvent, les gens me disent, mais comment tu fais pour marcher 30 km par jour ? Le problème, c'est que... Enfin, pas le problème, c'est qu'on n'a que ça à faire, en fait. Il faut se dire qu'en France, ou voilà, en temps normal, on va dire, on se lève, on va travailler. Moi, je me levais, j'allais marcher. Donc, je marchais de 6, 7 heures du matin à 19h, 20h le soir.
Oui, parce que
donc, on a le temps de faire 30 km en marchant.
Un humain lambda marche à 3,5 km/h.
Oui, c'est ça. Donc, en marchant 10 heures par jour.
Voilà, 30 km par jour, ça fait 10.
On les fait vite. Voilà. Oui, donc,
mais il y a certains jours, c'est 42 km quand même.
C'est 42. Et même le dernier jour, le tout dernier jour, j'ai fait un petit challenge personnel. Du coup, on a fait 100 km en 24 heures. En moins de 24 heures, du coup, pour terminer le chemin. C'était le dernier jour, on avait vu qu'on pouvait se le permettre, parce qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, et c'était le petit défi, on va dire. J'étais avec un...
100 km en 24 heures, donc ça veut dire qu'on marche vite, quand même.
Ça fait 4,17 km/h
oui,
en moyenne, sans s'arrêter. Donc ouais, il faut marcher vite. Ouais, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps, il faut passer la nuit. Mais c'était un petit challenge, ça s'est super bien passé, c'était génial.
L'idée du livre, vous l'avez eu dès le début, en partant ?
Absolument pas. C'était pas du tout prévu que j'écrive un livre. C'est un éditeur qui m'a contacté dans l'été, en fait. Il a vu un article sur moi, du coup, parce que j'ai aussi fait du coup l'Arizona Trail aux États-Unis l'année dernière. Et j'ai eu la chance d'être suivi par un blog, des blogueurs français qui font un blog sur l'Ouest américain, qui m'ont contacté du coup pour me suivre. Et cet éditeur, donc Jacques Flamand, a vu cet article sur le blog et il m'a contacté dans l'été pour savoir si j'étais intéressé pour écrire un livre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement. C'est pas moi qui ai cherché du tout, c'était pas du tout prévu. Moi, j'avais une page Facebook, une page Instagram, et je mettais un compte-rendu journalier. Voilà, j'écrivais le soir dans ma tente ou au refuge. J'écrivais un petit compte-rendu journalier, mais c'était pas dans l'idée d'en faire un livre.
Parce que là, c'est un journal de bord. Hein.
Oui, c'est vraiment un journal de bord, en fait. Ouais, c'est un journal de bord à chaud, donc j'ai très peu corrigé. C'était vraiment pour que ce soit le plus authentique possible, on va dire. Donc c'était vraiment le soir dans ma tente, j'écrivais sur mon téléphone après. Et quand j'arrivais en ville, quand j'avais du réseau, je le partageais. Pour la famille et les amis, principalement. Donc,
C'est sympa parce que du coup, ça nous fait bien entrer dans le voyage.
C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop corriger, pour que ce soit le plus authentique possible, le plus naturel. Et après, j'ai mis une petite introduction sur pourquoi la Nouvelle-Zélande, pourquoi ces longues randonnées et quelques conseils de préparation. Si jamais il y a quelques fous qui veulent se lancer aussi, conseils à la fin du livre.
Non, j'en ai connu des fous qui voulaient être bergers, qui sont allés là-bas pour... Mais j'avais jamais rencontré un fou qui était allé là-bas pour marcher 3000 km.
Il y en a quelques années, une centaine, 200, 300 fous qui se lancent comme ça chaque
année.
Sur
7 milliards d'habitants, ça fait quand même pas beaucoup.
Voilà. Oui, c'est ça, je peux dire que je fais partie des rares qui ont traversé la Nouvelle-Zélande à pied.
Ouais. Est-ce que ça vaut le coup sur le compte Insta ou quoi, ça fait des followers, des gens qui
likent? Très peu, j'en vis pas du tout. Ouais,
ça déclenche pas une folie?
Non, il y a une petite communauté on appelle ça en anglais les thru hikers, du coup, c'est un terme américain. Donc il y a une petite communauté de personnes qui vont faire des treks aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France aussi. Et du coup, on se rejoint un peu donc, sur Instagram, sur Facebook. Il y a une petite communauté, une petite famille comme ça. Donc on se suit les uns les autres. Et c'est marrant de rencontrer des personnes qui ont fait le même chemin que nous, qui connaissent des amis en commun qu'on a vus nous aux États-Unis, qui eux les ont vus en Nouvelle-Zélande. C'est assez marrant. Hein.
Alors il y a un autre truc marrant, c'est souvent quand on va à l'étranger comme ça, on tombe sur des Français. Ça vous est arrivé?
Ah ben en Nouvelle-Zélande, j'ai croisé plus d'Allemands et de Français que de Néo-Zélandais.
Oui, c'est
vrai. Ouais. Pour y avoir été aussi, dans n'importe quel restaurant, n'importe quelle boutique, ils vont entendre l'accent anglais-français, on va dire. Hein, enfin, voilà. Et là, ils vont dire « Ah, vous êtes français ?» Voilà. C'est dès du moment qu'on est un petit peu largué dans un restaurant ou autre, il y aura toujours un serveur, il sera français et il va vous aider. C'est obligé.
D'accord, c'est cool.
Ah oui, ça c'est cool.
Pourtant, c'est pas derrière la porte. Il y a combien d'heures d'avion? 20 heures, 25
plus,
heures
ou oui, c'est 30 heures de vol.
30 heures de vol.
Mais du coup, avec ce fameux permis vacances-travail, en fait, il y a, je sais plus, c'est 10 000, peut-être 10 000 Français, je sais plus, qui partent en Nouvelle-Zélande en fait, chaque année donc, pour aller travailler. Donc il y a une très très grosse communauté de Français, encore plus d'Allemands. Les Allemands, il y en a énormément aussi. Donc on en croise quasiment tous les jours, des Français et des Allemands, oui, tous les jours.
Et puis une dernière petite question, vous avez un autre voyage prévu là?
Oui, j'aurais dû partir cette année, normalement, du coup, pour traverser les États-Unis, encore une fois. Un autre chemin, donc c'est le Continental Divide Trail, qui traverse du coup les États-Unis du Nouveau-Mexique au Montana, à travers les montagnes, à travers les Rocheuses notamment, et qui fait entre 4000 et 4500 km.
Et là, il y a du prédateur, là.
Là, oui. Là, il y a du puma, il y a du grizzly, il y a quelques araignées, quelques scorpions. Donc oui, là, c'est autre chose.
On n'est plus dans le même délire.
Non, non, c'est autre chose.
3000 km à pied, le journal de bord. Préparation, Rémi Geoffroy, comment dites-le-vous?
Teraroa. Avec l'accent maori.
Chez Jacques Flamand, l'éditeur Alternative Éditoriale. C'est un petit bouquin à lire quand même très sympa. Quoi. Je veux dire, ça se lit facilement.
Oui, oui.
En voyage, il y a des photos.
Voilà.
C'est très bien vu.
Très accessible, c'est un beau souvenir que je voulais partager avec d'autres personnes aussi.
Voilà. Bah, c'est une bonne idée parce que du coup, ça nous fait partager. Puis c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais ça peut faire découvrir qu'il y a ce passeport pour certains jeunes qui ont envie d'y aller.
Oui, voilà, c'est un accord. Il y a plusieurs pays, il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, beaucoup de pays. C'est une quinzaine de pays, je pense, voire plus maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà, le Canada, en vrai, il y a le Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parmi les plus connus. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud aussi maintenant. Et le Japon, Singapour aussi. C'est pour les jeunes jusqu'à 30-35 ans en général. Donc, tous ceux qui veulent y aller, lancez-vous.
Ça peut être pas mal.
Ah oui, absolument.
Puis au niveau confinement, ça va, là.
Oui, la Nouvelle-Zélande, c'est un des rares pays où...
On peut respecter, bien, on peut respecter là, les distances de sécurité, là.
Ça s'en sort très bien, là. Il y a des matchs de rugby avec des spectateurs, tout est ouvert. Ils ont quasiment éradiqué le virus, donc...
D'accord.
Bah, c'est plus facile sur une île.
Vaut mieux sur une île, oui.
Voilà, une île où il y a 3 millions d'habitants, et c'est plus facile que...
Oui, puis même, quand il y a 3 millions d'habitants sur tous ces kilomètres carrés, la distanciation sociale, c'est pas trop compliqué.
Puis ils ont envie de fermer les frontières, en fait, donc c'est une île après, donc il n'y a personne qui rentre, donc c'est plus facile de l'éradiquer aussi.
Bon, bah vous avez pu revenir, merci. Vous nous avez ramené un bon bouquin, très sympa. J'espère que nos auditeurs pourront le retrouver. On le trouve un peu dans les librairies?
Non, pas du tout. Non. Il est sur le site du coup de l'éditeur, donc Jacques Flamand Édition. C'est l'unique endroit où il est disponible. J'en ai quelques-uns, si jamais des personnes sont intéressées, j'en ai pris quelques-uns, moi, pour les proches, pour la famille et les amis. D'accord. Il me reste encore. Donc, sinon, non, il n'est pas encore. C'est vraiment un tout petit tirage. C'était vraiment histoire d'avoir un souvenir pour moi, quoi, avant tout. C'est
donc, on va chez Jacques Flament, éditeur, Flament, F-L-A-M-E-N-T. C'est pas un animal flamand rose. Ou... Voilà. Vivien, merci beaucoup pour cette rencontre.
Moi, j'appelle mes potes, ils viennent. Ouais, voilà,
c'est sympa.
C'est, moi, j'aime bien, c'est cool. Hein.
Puis on a découvert que tu étais allé en Nouvelle-Zélande aussi.
Oui, aussi, oui.
Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas?
Eh ben, je suis allé voyager.
Il n'y a pas de bande dessinée là-bas.
Ben, si, il y avait des très bons magasins de comics d'ailleurs.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, bon à savoir. Merci Vivien, merci Rémi.
Eh ben, merci à vous.
Et puis bon voyage. Hein,
ben, j'espère l'année prochaine.
La prochaine fois, vous donnez vos Insta, Facebook et tout ça qu'on puisse
suivre. C'est le long chemin de Rémi, tout simplement.
Le long chemin de Rémi
sur Facebook et Instagram.
Comme ça, on pourra vous suivre et partager un peu ces bons moments. Merci à vous deux.
Pas de soucis, merci.